Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une religieuse polonaise ayant vécu au siècle dernier à la vie mystique d'une extrême richesse dont nous allons parler ce matin, d'elle ou plutôt de la grâce extraordinaire qui lui a été faite pour le monde, celle d'avoir de nombreuses apparitions du Christ, grâce fort rare dans l'histoire de l'Église. Le Christ qui a révélé à cette religieuse la profondeur de son amour pour les hommes, la profondeur de sa miséricorde, en lui demandant de faire connaître son message aux quatre coins du globe.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà pour cette émission Vivante Église ce matin sur la miséricorde divine. Je reçois Hélène Dumont. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mariée, mère de famille de quatre enfants. Vous êtes donc l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages autour de la thématique de la miséricorde divine et entre autres donc ce livre, La miséricorde divine, une grâce pour notre temps, paru aux éditions de l'Emmanuel, préfacé par le cardinal Barbarin. Et vous êtes également donc la fondatrice des Serviteurs de la Miséricorde. On verra un petit peu plus tard dans l'émission ce que c'est. Et vous animez un certain nombre de retraites en France et ailleurs. Alors, commençons peut-être par le début et par cette fameuse religieuse dont j'ai dit quelques mots, j'ai pas dit grand-chose. Sainte Faustine, donc, qui n'est pas née sainte, évidemment, qui est née donc le 25 août 1905 en Pologne. Comment vous nous présenteriez cette religieuse avant qu'elle le soit? Voilà, dans quel monde est-elle née?
Oh bah, tout simplement, c'est Hélène Kowalska qui a grandi dans la grande région de Varsovie. Elle est née dans une famille pieuse, pauvre, très pauvre. C'est la troisième de 10 enfants. Elle va à l'école que 3 ans. Et une des caractéristiques, c'est que son papa est un homme pieux qui, très tôt le matin, réveille toute sa famille en chantant les cantiques de la Sainte Vierge et qui, le soir, leur raconte l'histoire sainte, l'histoire des saints, qui prie le rosaire. Voilà, donc c'est dans cette ambiance de piété que notre future religieuse a grandi. Elle raconte un petit témoignage de sa vie lorsqu'elle avait 7 ans. Elle était à l'église de son village un dimanche pour les vêpres. Le Saint-Sacrement était exposé sur l'autel. Et là, eh bien, elle a fait une expérience de Dieu. Là, d'un seul coup, tout l'amour de Jésus présent dans le Saint-Sacrement s'est engouffré dans son cœur et elle a compris qu'elle était appelée à la vie religieuse, qu'elle appelle une vie plus parfaite. Et c'est après bien des tribulations parce que elle était obligée de travailler pour aider sa famille. Et à l'âge de 20 ans, elle rentre chez les sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie. Et alors, elle va faire plusieurs maisons de sa congrégation.
Voilà, peut-être, est-ce que vous pouvez raconter, j'avais lu il y a quelques temps de cela, qu'elle avait eu une forme de, un peu de rappel à l'ordre, je ne sais pas si on peut dire comme ça,
en fait,
à l'occasion d'un bal, parce qu'elle commençait à avoir une vie un peu étudiantine, mondaine peut-être.
C'est pas tant ça, c'est qu'elle avait cet appel dans le cœur très fort. Et à plusieurs reprises, elle l'a partagé à ses parents. Elle avait 15 ans, 16 ans, et à chaque fois, c'était un refus. Son papa était absolument opposé à ce que sa fille soit religieuse, semble-t-il pour deux raisons, probablement parce que déjà c'est une famille pauvre et qu'à cette époque, pour rentrer dans une congrégation, il fallait avoir une dot pour payer tout ce qu'il y avait à payer, les vêtements, etc. Alors c'était un obstacle, semble-t-il, et puis un autre, il paraît, que ce papa avait une préférence marquée pour cet enfant-là qui était la plus facile, la plus docile. Et donc, il voyait d'un très mauvais œil que cet enfant parte. Donc, elle a pensé que c'était peut-être pas la volonté de Dieu. Et elle a essayé d'étourdir un peu cet appel qu'elle avait au fond d'elle-même. Alors un jour, elle va, bon gré mal gré, à un bal avec des amis, une de ses sœurs.
Elle a 20 ans, c'est
elle
ça?
Elle a 18 ans.
18 ans.
Elle a 18 ans. Et puis un jeune homme l'invite à danser. Elle commence à danser. Puis d'un seul coup, effectivement, là, elle a une vision de Jésus souffrant sa passion, tout couvert de plaies, qui lui dit « Mais jusqu'à quand vais-je te supporter? Jusqu'à quand vas-tu me faire souffrir ?» Et là, c'est un tel choc pour elle qu'immédiatement, elle s'arrête de danser, elle prétexte un mal de tête et elle part.
Elle part quasiment immédiatement.
Immédiatement.
Pour un couvent, en fait. Non
voilà. Non,
non elle, se,
elle part. D'abord, elle va à l'église la plus proche. Elle confie cela à l'intercession de la Vierge Marie. Bon, et puis, à partir le lendemain matin, elle va à la messe. Donc à l'église, parce que donc elle part pour Varsovie et elle va dans une église à Varsovie. Et à l'issue de la messe à laquelle elle assiste, elle va voir le curé pour lui faire part de sa décision et qu'elle recherche la congrégation dans laquelle le Seigneur l'appelle. Et le prêtre lui conseille d'aller aider une famille, de se faire embaucher dans une famille qui a un certain nombre d'enfants, de jeunes enfants. La maman est enceinte, elle attend encore un bébé. Bref. Donc pour aider, et que pendant ce temps-là, eh bien, elle aura le temps de voir dans quelle congrégation le Seigneur l'appelle. Donc c'est ce qu'elle va faire pendant plus d'une année. Elle va travailler dans cette famille et elle va chercher où le Seigneur l'appelle jusqu'au jour où elle frappe à la porte. Le 1er août 1925, elle frappe à la porte de la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie.
Voilà, elle prononce ses vœux donc le 30 avril 1926. Après, j'ai lu donc pendant toutes ses premières années de vie religieuse, alors peut-être est-ce le cas après, elle avait des charges modestes, vous me direz, c'est la vie d'un couvent classique, hein, cuisinière, jardinière, etc. À quel moment dans la vie de cette religieuse, elle rentre dans une vie mystique extraordinaire? Est-ce que ça
alors,
vient
très tôt,
tout
très
de
tôt,
suite ou est-ce
très
que,
tôt, parce que bon, déjà, il y a cet événement-là. Hein, depuis déjà. Et puis, je dirais que dès qu'elle est rentrée, elle a des entretiens avec Jésus, par exemple. Effectivement, compte tenu de son origine sociale modeste, elle est sœur de deuxième cœur, elle est envoyée à la cuisine.
Ça veut dire quoi, sœur de deuxième cœur, juste?
C'est-à-dire que...
C'est un peu comme les Oblats, c'est ça?
Oui, non, ce sont des sœurs qui, étant originaires d'un milieu modeste, sans beaucoup d'instruction, elle était qu'à 3 ans à l'école, donc sont plutôt affectées aux travaux d'entretien. Hein, et au moins de temps pour la prière, pour l'étude. Hein. Contrairement par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle était sœur de premier cœur parce qu'elle avait reçu une autre éducation, donc elle avait plus de temps. Bon, c'était l'époque comme ça. Alors, notre sœur Faustine, elle est à la cuisine et en fait, elle découvre qu'elle n'a pas autant de temps qu'elle le pense pour la prière. Et au bout du premier mois de sa vie religieuse dans cette congrégation-là, elle pense qu'elle s'est trompée de congrégation. Et toute la journée, elle cherche à rencontrer la mère supérieure, elle cherche à rencontrer le prêtre, et puis sans succès. Et finalement, le soir, elle rentre dans sa cellule avec cette détermination dans le cœur de quitter cette congrégation pour une autre plus priante. Elle rentre et là, elle a une vision de Jésus qui pleure, qui pleure, qui pleure, avec des larmes qui coulent sur son lit. Elle me dit, mais Jésus, mais qu'est-ce qui te fait pleurer ainsi? Et Jésus lui répond, mais c'est toi si tu quittes cette congrégation dans laquelle je t'ai préparé de nombreuses grâces. Donc, on peut dire que c'est un événement pas commun.
C'est le mot qu'on puisse dire, oui.
Et donc, qui révèle déjà... cette vie mystique qui est en elle. Hein.
Pardon, peut-être avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous pouvez expliquer, recontextualiser, parce que vous êtes familière de Sainte Faustine, de la Divine Miséricorde, du message qui lui a été révélé, mais peut-être je me mets à la place des auditeurs et je sais qu'il y en a qui n'en sont même pas peut-être à croire réellement en Dieu. Cette vie mystique si particulière, elle est quoi? C'est exceptionnel dans l'histoire de l'Église? Il y a toujours eu des saints comme ça dans l'histoire de l'Église?
Alors, il y a des saints.
Des apparitions du Christ.
Oui, il y a des saints dans l'histoire de l'Église. Des apparitions du Christ, effectivement, sont rares. Par exemple, nous avons en France, à Paray-le-Monial, au XVIIe siècle, nous avons eu Sainte Marguerite Marie,
voilà, donc en Bourgogne,
qui a eu des apparitions de Jésus, qui lui a montré son cœur. Plusieurs apparitions de Jésus. Les apparitions du Christ dans l'histoire de l'Église sont extrêmement rares. on a des saints dans l'Église qui ont eu une vie mystique, mais c'est effectivement rare. Par exemple, on peut prendre le Padre Pio, qui est quand même,
saint italien, hein, très connu en Italie.
Voilà, et qui a été marqué par les stigmates de la Passion pendant des années et des années.
Voilà, précision faite en tout cas. Disons qu'il ne faut pas voir le Christ pour être saint, mais disons qu'il arrive que des saints voient le Christ, en tout cas c'est le cas donc, de Sainte Faustine.
Sainte Faustine.
Donc il y a ces deux premiers événements mystiques dont vous avez parlé. Et après, en fait, quand a lieu, quand est-ce que le Seigneur commence à se révéler à elle, en lui révélant particulièrement ce message de la divine miséricorde?
Alors, il y a eu un certain nombre d'apparitions de Jésus qui lui parlent de sa miséricorde, qui lui révèlent les richesses de son cœur. Par exemple, un jour, il lui dit « Les flammes de ma miséricorde me brûlent. Je désire les déverser sur les âmes humaines. Oh, quelle douleur elles me causent quand elles ne veulent pas les recevoir. Dis à l'humanité douloureuse de se blottir dans mon cœur. Miséricordieux, je la comblerai de paix. » On voit très tôt, chez Sainte Faustine, ce désir de Jésus qu'il a choisi comme apôtre de la miséricorde, comme secrétaire, comme témoin, lui faire ces grandes révélations de son amour brûlant pour chaque homme et presser que chacun se convertisse, revienne à lui. Voilà. Et puis, il y a un événement particulier, c'est le 22 février 1931. Ce soir-là, Sœur Faustine rentre dans sa cellule et... Alors, comment sont les cellules des sœurs à l'époque? C'est tout étroit, hein, chaque cellule est séparée par des grands rideaux, il y a juste un petit nécessaire de toilette, de quoi écrire, et puis c'est tout. Et là, elle rentre dans sa cellule et elle se retrouve nez à nez devant Jésus, ressuscité, marqué des stigmates de sa passion dans la lumière de la résurrection. Et alors, vous pouvez imaginer, elle raconte combien elle est troublée, combien elle est bouleversée devant cette grande apparition, hein, parce qu'elle a eu nombreuses apparitions, mais celle-ci est particulièrement importante. Elle voit Jésus qui montre son cœur, d'où elle voit des rayons rouges et blancs. Jésus lui explique que c'est le sang et l'eau qui ont coulé de son cœur lorsqu'il a été transpercé sur la croix. Hein, ce sont les sacrements qui viennent nourrir les âmes, guérir, sauver. Voilà. Et de l'autre, elle voit Jésus qui a sa main droite levée en signe de bénédiction, parce qu'il veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, c'est beau, elle est complètement bouleversée. Et à cette occasion-là, Jésus lui demande de faire réaliser un tableau le représentant, avec au pied du tableau marqué cette magnifique prière, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Alors, il y a plusieurs choses dans ce tableau. D'abord...
Alors, si ça ne vous embête pas, on essaye de...
Oui.
J'aimerais juste qu'on reste sur les grandes étapes de sa vie, puis après, on reviendra sur
donc,
le tableau.
Voilà. Donc, ça, c'en est une. 22 février 1931, le tableau. Et ce soir-là, il lui demande aussi la fête. On en reparlera tout à l'heure. Il va lui demander plus tard... également lui enseigner une prière, le chapelet de la miséricorde. Alors, voilà, tout au long de sa vie de religieuse, qui a été courte, puisqu'elle est décédée le 5 octobre 1938, elle avait donc 33 ans, donc ça fait 13 ans de vie religieuse. Extrêmement court, mais extrêmement intense, avec toutes ces apparitions de Jésus, mais aussi des apparitions de la Vierge Marie.
Quand vous dites toutes, c'est-à-dire qu'elle a eu, combien d'apparitions en fait?
Ah, je ne pourrais pas vous dire, parce que Jésus lui est apparu... aussi bien là je parle de la grande apparition, hein, mais il y a eu aussi des apparitions alors qu'elle est au jardin ou qu'elle est en train de ou bien elle est en train d'écrire ce que Jésus lui révèle, et puis elle voit Jésus qui est à côté d'elle, assis sur la chaise, en train de regarder ce qu'elle est en train d'écrire. Il y a énormément, on peut pas arriver à dire, enfin moi je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont ces révélations ont été accueillies par ses supérieurs? On sait que en général c'est pas facile.
Et évidemment, il y a une saine prudence et un discernement qui doit se faire. Hein. Alors évidemment, notre sœur Faustine, qui en plus était d'un milieu très modeste, les sœurs ne pouvaient pas croire que Jésus puisse lui apparaître à elle, qui avait si peu d'instruction. Et ça a été une grande souffrance pendant plusieurs années.
C'est-à-dire que pendant plusieurs années, on a mis à l'épreuve en fait ce qu'elle
disait. On l'a mis à l'épreuve. Alors, elle a aussi changé souvent de maison. Et puis, elle n'avait pas un confesseur stable. Elle a eu le père Andras, qui est, quand elle était à Cracovie, qui l'a écoutée et qui était tout à fait bienveillant et tout à fait accueillant par rapport à tout ce qu'elle lui confiait, de ce que Jésus lui avait dit. Et puis, finalement, elle est envoyée à Vilnius. Et là, elle voit, la semaine après son arrivée à Vilnius, le prêtre confesseur de la communauté arrive et elle reconnaît ce prêtre qu'elle avait vu, dont elle avait eu une vision, deux visions même, tout comme Sainte Marguerite Marie avait eu des visions du père Claude la Colombière, qui était devenu son confesseur. Donc elle le reconnaît. Elle le reconnaît. Alors, il y a un combat qui se livre en elle. Est-ce que je vais lui dire? Est-ce que je lui dis pas? Voilà. Bref, elle finit par lui raconter tout ce que Jésus lui a révélé, lui a demandé. Le père aussi, le père Sopotchko, la met aussi à l'épreuve dans les premiers temps. Et puis finalement, un peu poussé par la curiosité, comme il le dit lui-même, il va faire réaliser un tableau tel que Sainte Faustine lui parle par rapport à l'apparition. Il y a aussi un autre élément, c'est que à la suite de toutes ces révélations que Sainte Faustine lui livre, il va beaucoup travailler aussi les pères de l'Église, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, et il va retrouver dans ce que Sainte Faustine lui livre des choses qu'il peut lire dans ses écrits-là.
Voilà, en tout cas, donc une sainte à la vie mystique exceptionnelle. Ce même père spirituel, donc le père Michel Sopotchko, c'est comme ça qu'on dit ?
Sopotchko.
Sopotchko, pardon, lui demande d'écrire. Et donc, ça sera le fameux petit journal. Peut-être que vous pouvez dire un mot avant qu'on...
Alors, le petit journal n'est pas...
Qu'on peut lire, qu'on peut tous...
Bien sûr, on peut tous le procurer. Ce n'est pas une biographie, autobiographie facile avec un fil conducteur. Le petit journal, il faut bien imaginer que notre sœur est prise à la cuisine, elle est prise au jardin, elle n'arrête pas une minute. Donc, dès qu'elle peut, elle écrit quelques lignes sur un cahier, avec un crayon de papier. Elle va écrire un entretien avec Jésus, un entretien avec la Vierge Marie, une petite anecdote avec une sœur, un événement qui vient de se passer, une prière... Une autre prière. Voilà. Donc c'est une succession, si vous voulez.
Et des paroles du Christ.
Et puis des paroles de Jésus.
Oui, ça vaut le coup de le préciser quand même.
Oui, oui, ben je disais ces entretiens avec le Christ. Hein. Et du coup, ce n'est pas comme on lit un roman, la tête sur l'oreiller. Hein. Voilà, tout simplement.
C'est quand même
un livre.
C'est un livre quand même exceptionnel.
Exceptionnel, où on lit, qui nourrit.
Des paroles qui sont des paroles adressées
exactement,
par le Christ directement.
Qui viennent du Christ directement, qui nourrit la prière, qui nourrit la vie spirituelle, ça clairement. Voilà.
Merci beaucoup Hélène Dumont. On va faire une première pause musicale et puis on vous retrouve après pour parler plus profondément de ce message de la Divine Miséricorde à Sainte Faustine et des révélations que le Christ lui a faites.
Thank you. Présence.
Vivante Église. Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin donc sur la miséricorde divine avec Hélène Dumont. Hélène Dumont, donc mariée, mère de 4 enfants, fondatrice des Serviteurs de la Miséricorde. Elle nous expliquera un petit peu plus loin dans cette émission ce que c'est, conférencière en France et à l'étranger, et auteure entre autres donc d'un ouvrage, La Miséricorde Divine, une grâce pour notre temps, paru aux éditions de l'Emmanuel. Alors, vous nous avez aidé à parcourir très rapidement la vie de cette sainte à la vie mystique extraordinaire, au dire même de l'Église. J'avais noté la vie mystique d'une extrême richesse. Et donc qui a eu cette grâce d'avoir un certain nombre d'apparitions du Christ. Le Christ donc qui lui a révélé un certain nombre de choses qui ne lui étaient pas destinées qu'à elle. Entre autres, vous nous en avez parlé un petit peu avant, lors d'une apparition le 22 février 1931. Donc le Christ lui apparaît et lui demande en fait qu'un tableau soit peint de cette apparition. Est-ce que vous pouvez nous redétailler un petit peu ce qu'on voit sur ce tableau avant qu'on aille un petit peu plus loin, pour ceux qui ne le connaîtraient pas?
Alors, sur ce tableau, nous voyons Jésus vivant ressuscité, marqué des stigmates de la passion, qui semble sortir de ténèbres, c'est-à-dire que le fond du tableau est sombre, comme s'il jaillissait des ténèbres en apportant la lumière. Il est en marche parce qu'il vient au-devant du pécheur. Il a sa main gauche tournée vers son cœur, d'où notre sœur Faustine voit des rayons rouges et blanc, qui représente le sang et l'eau, les sacrements. C'est très beau d'ailleurs. J'aime bien préciser que Jésus a montré son cœur. Parce que, comme il le dit à un autre moment, c'est de son cœur que jaillit la source de la miséricorde. La miséricorde, c'est une histoire de cœur, c'est pas une histoire de tête. C'est pas une histoire de tête, c'est une histoire de cœur à cœur. De notre cœur avec son cœur. Et puis, elle voit la main droite de Jésus qui est levée en signe de bénédiction pour nous rappeler qu'il veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Voilà cette apparition et ce tableau, ce qu'il représente. Alors, il y a plusieurs...
Voilà, il y a plusieurs versions de ce tableau.
Il y a plusieurs versions de tableau.
En général, celle qu'on connaît, semble-t-il pas la version d'origine.
Alors, il y a plusieurs versions. La première, donc, c'est...
Peut-être pas tout l'historique, mais l'essentiel, en tout cas, qu'il
faut savoir
sur ce sujet.
Alors, la première, c'est celle qui a été réalisée à Vilnius par le peintre Kazimierowski sur la demande du père Sopotchko.
Et donc, l'accompagnateur spirituel de Sainte Faustine.
Voilà, le père spirituel de Sainte Faustine. Et nous voyons, effectivement... Alors, Jésus, là, a les yeux baissés. Il a effectivement la main tournée vers le cœur, la main qui bénit, la main droite qui bénit, donc, et les pieds en marche. Et donc ce regard baissé. Sainte Faustine a dit à un moment, c'est en 1935, que ce tableau a été exposé à l'occasion des fêtes, et elle a vu toutes les grâces qui étaient données au-dessus, enfin, qui était déversé sur l'assemblée des fidèles présents à cette célébration, et même au-dessus pour toute la ville de Vilnius. Bon, alors ça c'est un tableau qui a eu certaines vicissitudes au moment de la guerre, qui a disparu, etc. Et puis, il y a eu le tableau, un autre tableau, le tableau de Bakowski, que les sœurs ont été trouvées pour lui demander de faire réaliser un tableau tel que Sainte Faustine le décrivait dans ses écrits, etc. Et ce premier tableau a brûlé au moment de l'insurrection, alors qu'il était à Varsovie.
Je vous propose de ne pas nous faire tout l'historique des tableaux, mais peut-être juste l'essentiel, la différence entre l'original.
Alors, tableau qui est le plus connu, en dehors de celui de Kazimierowski, c'est celui d'Adolf Hila, ou Iwa, qui a été réalisé en 1943 à Cracovie, qui est un tableau, donc qui est le tableau présent dans le sanctuaire mondial de la miséricorde. C'est celui que le pape Jean-Paul II a toujours connu, a toujours vu à Cracovie. Là, les yeux de Jésus ne sont pas baissés, ce sont des yeux de compassion, de tendresse qui semblent envelopper celui qui prie au pied de tableau. Il y a beaucoup de douceur dans ce tableau. Beaucoup de gens m'ont témoigné combien ils se sentaient rejoints par ce tableau de Jésus miséricordieux qui, pour eux, semble moins sévère et moins froid que celui de Kazimierowski.
Alors, il y a d'autres choses à dire évidemment sur ce tableau. Ce qu'il faut préciser, vous l'avez dit au début de cette émission, c'est que le Christ lui-même donc aurait demandé à Sainte Faustine que soit écrit en dessous Jésus, j'ai confiance en toi. Donc la citation est peint un tableau sur selon l'image que tu vois avec l'inscription Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà, c'est clair en tout cas.
Voilà.
Tout simplement.
Et Jésus a dit par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes, que chaque âme ait donc accès à elle. C'est inouï ce que Jésus demande là et promet.
Accès à cette image.
Il promet des grâces, et moi je peux dire que j'ai beaucoup de témoignages de grâces qui ont été reçus par ce tableau, de toutes sortes de grâces.
Est-ce que vous pouvez nous citer peut-être une ou deux?
Alors, des grâces aussi bien spirituelles, par exemple des grâces de conversion devant ce tableau, des grâces de réconciliation familiale, des grâces aussi bien temporelles, matérielles. Je me rappelle d'un témoignage qui m'avait été rapporté, c'était une maman s'était trouvée séparée de son conjoint et se trouvait dans une certaine précarité avec sa fille adolescente. Et un soir, elles étaient toutes les deux à prier devant ce tableau. Et la maman avait désiré se faire un bon potage. Alors elle commence à dire, voilà, j'aimerais bien avoir tel légume, tel. Puis elle commence à énumérer les légumes qu'elle aimerait avec les quantités. Et puis sa fille dit, moi j'aimerais bien changer de vêtements. Bon. Eh bien, le lendemain, coup de sonnette, et une personne vient leur apporter un panier avec des légumes, exactement les légumes qui avaient été demandés par la maman, et un sac de vêtements pour la jeune fille. Ça, c'est une grâce temporelle, mais il y a aussi des grâces de guérison intérieure ou des guérisons physiques. J'ai eu des témoignages de guérison physique, comme d'une personne qui a été guérie du dos pendant un temps de prière devant ce tableau. Il y a un jour un tout autre témoignage d'une personne qui arrive devant ce tableau. C'était chez quelqu'un, donc c'était autour du tableau pèlerin. Et rien qu'en voyant l'image, elle est saisie. Et pendant tout le temps où elle se trouve devant ce tableau, elle pleure. Alors la personne qui l'accueille était un peu gênée. Bon, et puis elle finit par parler avec elle. Et puis elle lui finit par lui dire, peut-être que vous pourriez rencontrer un prêtre. Et la personne lui répond, il va falloir qu'il ait du temps. Parce que je ne me suis pas confessée depuis l'âge de 7 ans. Et elle en avait plus de 60. Voilà, toutes sortes. Parce que Jésus est pressé. Nous sommes dans un temps de miséricorde. Nous sommes dans un temps où Jésus est pressé de déverser ses grâces sur les âmes.
Alors Jésus qui précise aussi, ce n'est ni dans la beauté des couleurs, ni dans celle du coup de pinceau que réside la grandeur de cette image, mais dans ma grâce. Et pour finir, je citerai Jean-Paul II qui a déclaré à propos de ces tableaux que c'est une effigie sacrée. Alors il faut avancer, ou il faudra venir suivre l'une de vos conférences pour en savoir plus. Une autre chose que le Christ a demandé à Sainte Faustine, c'est donc que soit instituée une fête de la divine miséricorde. Est-ce que vous pouvez nous dire à l'occasion de quelle apparition, comment le Christ s'y prie ?
Alors,
qu'est-ce qu'il demande exactement ?
C'est la même fête, c'est la même apparition. À l'occasion de cette apparition du 22 février 1931, Jésus a demandé le tableau et il a demandé la fête. Mais comme cette demande concernant cette fête de la miséricorde était tellement chère à son cœur que ça venait peut-être pas aussi vite qu'il le souhaitait, il en a reparlé 14 fois à Sainte Faustine.
De cette fête ?
14 fois, il lui a demandé une fête de la miséricorde. Une fête qu'il présente comme ultime planche de salut. Une fête qu'il dit venir du plus profond de ses entrailles. Une fête pour ramener tous les pécheurs dans le giron du Père. Une fête qui se prépare par une neuvaine qui commence le vendredi saint et se poursuit pendant toute l'octave de Pâques. C'est lui-même qui enseigne cette neuvaine à Sainte Faustine. Une fête au cours de laquelle...
Donc l'octave, c'est les 8 jours qui suivent...
Voilà, qui voilà. suivent Pâques. Une fête au cours de laquelle les fidèles sont invités à participer à l'Eucharistie du dimanche, bien sûr, mais aussi une fête au cours de laquelle un grand tableau de Jésus miséricordieux doit être présenté solennellement béni, avec un temps de prière à la miséricorde l'après-midi, et les confessions doivent être également proposées aux fidèles pour recevoir l'indulgence plénière. Jean-Paul II, lorsqu'il a canonisé Sainte Faustine le 30 avril 2000, a reconnu point par point tout ce que Jésus avait demandé lors de cette apparition. Exactement point par point.
Et donc, aujourd'hui, la fête a été instituée.
Alors, la fête a été instituée par Jean-Paul II. Donc, cette fête doit être célébrée dans toutes les paroisses, au même titre que Noël, Pâques, la Pentecôte, la Toussaint, etc. Dans toutes les paroisses. Ce ne doit pas être un événement, je dirais, d'une paroisse ou d'un sanctuaire d'un diocèse, mais dans chaque paroisse. Parce que, et moi je peux en témoigner aussi, partout où je vais depuis donc 2001-2002, je vois arriver, à l'occasion de la fête de la Miséricorde, des personnes, entre guillemets, qui arrivent là sans savoir pourquoi et par hasard. Et qui vivent, mais des conversions incroyables. Alors, ces gens-là, même éventuellement des personnes qui sont des fidèles mais qui ne connaissent pas, ils n'iront jamais célébrer la fête de la Miséricorde dans le lieu phare du diocèse, mais ils vont aller où ? Ils vont passer devant l'église de leur quartier. Si elle est ouverte, ils peuvent se sentir poussés à rentrer, et c'est là qu'ils peuvent faire une expérience de la miséricorde de Dieu pour eux. C'est absolument extraordinaire. C'est vraiment, comme dit Jésus, l'ultime planche de salut. C'est un moyen incroyable que Jésus a donné aujourd'hui pour son peuple tant aimé de revenir à lui, revenir dans le giron du Père, d'être serré sur le cœur du Père, de recevoir la miséricorde et le pardon des péchés dans le sacrement individuel de la réconciliation.
Voilà le Christ qui dit aussi « J'exhorte les âmes à une grande confiance en mon insondable miséricorde, que l'âme faible et pécheresse ne craigne pas de s'approcher de moi, car même si elle ne compte plus de péchés qu'il n'y a, même si elle compte plus de péchés qu'il n'y a de grains de sable sur terre, tout sombrera dans l'abîme de ma miséricorde. » Alors je ne sais pas si c'est aussi à l'occasion de cette apparition, en tout cas le Christ demande à Sainte Faustine autre chose, c'est que soit non pas instituée, mais que soit fêtée l'heure de la divine miséricorde. Oui. Alors racontez-nous.
Alors l'heure de la miséricorde, il lui demande tous les jours à 15h de prier sa passion, de plonger dans sa passion. Il lui dit tous les jours à 15h. Si tu as le temps, tu fais le chemin de croix. Si tu n'as pas le temps de faire le chemin de croix...
Alors rappelez 15h pourquoi peut-être ?
15h, l'heure de la mort du Christ en croix. Alors, donc, il demande à Sainte Faustine de faire le chemin de croix.
Excusez-moi, on le sait, c'est avéré. Enfin, la tradition savait que c'était à 15h que le Christ était mort.
Oui, nous savons. Et que on a beaucoup d'églises, enfin encore... aujourd'hui, maintenant, je pense, qui à 15h sonne les cloches le vendredi. Alors, donc Jésus lui demande de faire le chemin de croix tous les jours à 15h, mais il lui dit, si tu ne peux pas faire le chemin de croix, eh bien entre à la chapelle adorer ma miséricorde dans le Saint-Sacrement. Et si tu ne peux pas, eh bien là où tu te trouves, plonge-toi dans ma miséricorde. C'est une heure de grande miséricorde. En cette heure, je ne saurai rien refuser à celui qui me prie par ma passion. Alors, Sainte Faustine, dans sa vie de religieuse, est entièrement, je dirais, livrée à épouser la croix. Elle a intercédé pour la conversion du monde, la conversion des pécheurs. Elle n'a eu de cesse d'intercéder pour le monde, d'intercéder pour les pécheurs. Elle avait une grande compassion pour les pécheurs. En plus, elle a visité l'enfer et le purgatoire, elle a vu la souffrance de ces âmes-là. Donc, Sainte Faustine, on peut dire, a épousé la croix, et tout était bon, je dirais, pour prier.
Qu'est-ce que ça veut dire épouser la croix? Si je pouvais juste en quelques mots.
Épouser la croix, c'est-à-dire
que
elle a voulu suivre Jésus jusqu'au bout sur la croix. Bon. Et donc elle a pour prier, pour intercéder pour le monde, etc. Donc je dirais de façon même spontanée, avant même que Jésus lui demande tous les jours à 15 heures de prier sa miséricorde, elle avait l'habitude déjà, quand elle pouvait, de faire le chemin de croix. À travers Sainte Faustine, nous entendons et nous recevons cette demande de Jésus de prier tous les jours à 15 heures, d'implorer sa miséricorde pour le monde et de plonger dans sa passion. Prier à 15 heures, c'est pas faire un espèce de dolorisme, c'est revenir au cœur de notre foi. Jésus a souffert, il est mort, il est ressuscité pour nous, c'est à ce prix que nous sommes sauvés. Méditer la passion nous fait comprendre de quel amour nous sommes aimés. Méditer la passion, eh bien, nous fait voir aussi notre péché, nous fait grandir en humilité et nous permet aussi, eh bien, justement, d'avoir plus de force pour lutter contre notre péché. Et méditer la passion, c'est aussi venir plonger dans les plaies de miséricorde de Jésus toutes nos souffrances, nos maladies, nos épreuves, pour recevoir la guérison. Puisque, comme il est écrit dans Isaïe, par ses blessures, nous trouvons la guérison. Voilà. Alors, méditer la passion, ce n'est pas réservé simplement au Vendredi Saint, ce n'est pas réservé pour les mystiques, ce n'est pas réservé pour les cloîtrés. Méditer la passion, plonger dans la passion à 15 heures, c'est pour chacun de nous. Il nous suffit en quelques secondes de rassembler dans le monde entier, l'humanité tout entière, la plonger dans le côté transpercé de Jésus en implorant sa miséricorde pour notre monde, pour les pays en guerre, pour les chrétiens persécutés, pour le respect de la vie, de son début à sa fin naturelle, pour toutes les intentions que nous pouvons porter dans notre cœur, les malades, les mourants, les âmes du purgatoire. Voilà. Et puis, on peut aussi décider concrètement, dire, voilà, une fois par semaine, je vais prendre le temps de méditer la passion de Jésus, de lire l'évangile de la passion, de faire le chemin de croix, mais simplement déjà lire l'évangile de la passion pour comprendre cette grâce que j'ai d'être sauvée par la croix de Jésus. Parce que c'est l'extrême de l'amour qui se manifeste sur la croix. La miséricorde se révèle dans la passion, la mort et la résurrection. Jésus est ressuscité. Et pour bien célébrer la résurrection, il nous faut prendre ce temps de méditation de la passion de Jésus.
Voilà, je finirai cette seconde partie par deux paroles donc, du Christ à Sainte Faustine. « Mon enfant, médite souvent les souffrances que pour toi j'ai subies, et rien de ce que tu souffres pour moi ne te semblera extraordinaire, ou en cette heure je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion, comme vous l'avez dit. » Merci beaucoup Hélène Dumont, on fait une deuxième pause et puis on vous retrouve pour parler du chapelet de la Divine Miséricorde, donc autre révélation d'une certaine manière que le Christ a fait à Sainte Faustine, qui commence à être connue mais qui n'est pas encore connue de tout le monde, et parler aussi des serviteurs de la Miséricorde.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin donc sur la miséricorde divine. Si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle que nous sommes avec Hélène Dumont, auteur entre autres d'un ouvrage, La miséricorde divine, une grâce pour notre temps, aux éditions de l'Emmanuel, et également conférencière et donc fondatrice des serviteurs de la miséricorde. Alors dans cette dernière partie, je voulais parler avec vous donc du chapelet de la miséricorde, donc autre révélation concrète du Christ. Donc c'est un chapelet, donc avec cinq dizaines, normalement cinq Notre Père et cinq Je vous salue Marie, mais là c'est un petit peu différent, ce que le Seigneur lui a enseigné. Dites-nous.
Alors, c'est une puissante prière que Jésus lui-même a enseignée effectivement à Sainte Faustine. Sur le grain du Notre Père, nous prions ainsi: Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation pour nos péchés et ceux du monde entier. Et puis sur les grains du Je vous salue Marie, nous disons: par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Alors, cette prière est toute puissante, et quand on réfléchit, et que nous réfléchissons à ce qui se vit à l'Eucharistie, à chaque Eucharistie, que nous faisons-nous ? Eh bien nous, fidèles, par notre baptême, prêtre, prophète et roi, nous offrons au Père le corps et le sang de Jésus en réparation pour nos péchés et ceux du monde entier. Et donc, c'est une puissante prière que Jésus a voulu et à laquelle il a attaché beaucoup de promesses. Il a dit: « J'accorderai de très grandes grâces aux âmes qui diront ce chapelet. » Dis constamment ce chapelet, que tous les enfants récitent ce chapelet que je t'ai enseigné. Par ce chapelet, tu obtiendras tout si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. Et donc, il demande à Sainte Faustine de prier ce chapelet, notamment pour les personnes à l'agonie. Il a promis beaucoup de grâces, notamment des grâces de paix pour ceux qui sont en train de mourir. Alors, Sainte Faustine avait le don de bilocation, c'est-à-dire qu'elle se retrouvait...
Ouais, expliquez, parce que
voilà,
c'est pas
le don de bilocation chez les mystiques, c'est d'être...
Chez certains mystiques,
chez certains mystiques, de se retrouver à deux endroits ou un endroit différent de celui où normalement il se trouve. Et en l'occurrence, notre sœur Faustine était dans son couvent et à un moment donné, elle s'est retrouvée par grâce de Dieu au chevet d'un mourant dans une chaumière. Il y avait la famille qui était en pleurs autour de la personne et sœur Faustine commence à prier ce chapelet de la miséricorde et elle voit tous les démons qui étaient sur le lit qui s'enfuient immédiatement. Voilà. Et une autre fois, puisqu'elle est à l'hôpital, à plusieurs reprises, il lui est arrivé de prier pour des personnes en train de mourir. C'est ce que Jésus a demandé en disant « J'accorderai des grâces inconcevables à ces âmes hein. ». Et qu'il recommande aussi que les prêtres proposent ce chapelet comme une ultime planche de salut aux pécheurs agonisants. Donc c'est une grande prière. Mais c'est une prière qui non seulement peut être faite à cette occasion-là, bien au contraire, mais à d'autres occasions. Par exemple, Sœur Faustine, un jour, se trouve dans un de ses couvents et un orage d'une extrême violence éclate au-dessus du couvent. Immédiatement, elle fait une petite prière. « Voilà, Seigneur, protège la maison, le jardin. » Et Jésus fait monter dans son cœur, lui dit dans son cœur: « Prie ce chapelet que je t'ai enseigné. » Alors, Sainte Faustine prie le chapelet de la miséricorde et en quelques minutes, quelques secondes, cet orage d'une extrême violence s'arrête à la plus grande stupéfaction des sœurs. Une autre fois, elle est au jardin et depuis plusieurs semaines, il n'a pas plu, les plantes souffrent de la sécheresse et elle se met à prier le chapelet de la miséricorde et très vite, une petite ondée arrive, un petit nuage arrive et arrose la terre desséchée. Voilà, quelques petits exemples de notre sœur Faustine pour montrer que, là encore, C'est incroyable, je dirais presque. C'est stupéfiant de voir que Jésus, au XXe siècle, il nous donne une petite image, il nous donne une petite prière. Pourquoi ? Pour que nous implorions la miséricorde pour notre monde, pour que le maximum de pécheurs soient sauvés. Et comme je vous ai dit, sœur Faustine, elle a visité l'enfer, elle a visité le purgatoire, elle a vu la souffrance des âmes. Eh bien, ce chapelet est tout puissant.
Alors, est-ce que vous avez des exemples, des histoires, on va dire.
Alors, des petites histoires, des fioritis, oui, par rapport
au... justement l'efficacité de cette prière et alors, les conversions de
voilà,
de ces
des conversions. Alors, des conversions, je parlerai particulièrement de la chaîne de prière pour les personnes en fin de vie que nous avons mis en place au niveau des serviteurs de la miséricorde.
Alors, dans ces cas-là, d'un mot, introduisez peut-être avant
les serviteurs de la miséricorde, c'est un mouvement qui a pour vocation de vivre de la spiritualité de Sainte Faustine, en approfondissant la miséricorde dans la parole de Dieu d'abord, dans les écrits de notre religieuse ensuite, pour se laisser imprégner en profondeur, pour essayer de devenir miséricordieux parce qu'on ne naît pas miséricordieux, et en même temps pour le transmettre, en vivre, l'exercer, transmettre. Et nous avons différents apostolats, différentes chaînes de prière en faveur, alors des apostolats en faveur de l'évangélisation et en faveur de la compassion. Et notamment la chaîne de prière pour les personnes en fin de vie. On a un numéro de téléphone.
Qu'on donnera à la fin peut-être si vous le connaissez par cœur. D'accord.
Et nous avons et d'autres apostolats en faveur d'évangélisation. Alors, la chaîne de prière pour les personnes en fin de vie. Tout simplement, nous avons quelqu'un, un membre des serviteurs qui est au téléphone, qui reçoit des appels de personnes qui veulent confier un proche, un malade en train de mourir, un membre de la famille en train de mourir, dans le coma. Et lui retransmet à tous les serviteurs inscrits dans cette chaîne de prière, hein, qui servent dans cette chaîne de prière. Et donc, tous vont prier ce chapelet de la miséricorde pour cette personne en donnant le prénom. Voilà. Alors, on a eu comme retour, on a des familles qui nous rappellent après en nous disant, ben voilà, vous avez prié. Eh bien, écoutez, c'est incroyable. Il cite celui qui avait été confié, lui qui a, pendant des dizaines et des dizaines d'années, refusé les sacrements, refusé l'église, rejeté l'église, tout. Eh bien, elle a demandé à avoir un prêtre, à recevoir les sacrements. D'autres ont témoigné de réconciliation de famille au chevet du mourant. D'autres ont témoigné de paix aussi au chevet du mourant. D'autres ont témoigné de la sortie du coma et de la guérison de la personne en question. Je me rappelle d'un jour, c'était un Mathieu qui avait été confié et en recevant ce prénom, nous avions la certitude qu'il s'agissait d'un jeune. Effectivement, c'était un jeune dans le coma et qui ne pouvait même pas être opéré. Et on a prié ce chapelet de la miséricorde. Il faut savoir qu'il y a quand même 200 serviteurs qui prient. Alors tous ne prient pas en même temps pour la même personne. Mais enfin, il y a au moins 50 personnes qui prient ce chapelet de la miséricorde nominativement pour celui qui est confié. Et le lendemain, on reçoit Mathieu est sorti du coma, voilà, terminé, enfin tout risque de décès prématuré, c'était un jeune d'une vingtaine d'années, est complètement écarté. Voilà, donc des grâces de toutes sortes. Le chapelet de la miséricorde, c'est aussi des grâces inouïes que Jésus veut donner à notre temps.
Alors pour finir, donc les serviteurs de la miséricorde, vous l'avez introduit, donc vous les avez fondés en 2002, c'est bien ça ? 2008, pardon. Donc vous êtes 1200 donc serviteurs de la miséricorde. Vous nous avez dit que vous aviez différents apostolats autres que celui que vous venez de décrire. Est-ce que vous pouvez nous dire à gros traits les principaux apostolats et puis comment, si des auditeurs veulent vous rejoindre, comment faut-il qu'ils s'y prennent ?
Alors, on a un site qui s'appelle serviteurs-de-la-miséricorde.org sur lequel ils pourront trouver notamment le numéro de téléphone de la chaîne de prière Fin de Vie. Il y a deux types d'appartenance. Il y a la fraternité de cœur et la grande fraternité miséricorde. Ceux qui sont en fraternité de cœur peuvent être, par exemple, désireux uniquement de porter dans leur prière la mission des serviteurs, mais ne se sentent pas prêts pour différentes raisons, soit de santé, soit d'âge, ou soit d'appel personnel, ne sont pas prêts à s'investir davantage, et puis d'autres, plus désireux de répondre à un appel et d'intégrer cette grande fraternité miséricorde. Dans cette grande fraternité miséricorde, les serviteurs se retrouvent en petite fraternité locale pour partager sur la miséricorde, parce que nous avons à l'approfondir. La miséricorde, comme disait Sainte Faustine, elle est incommensurable. Alors, où pouvons-nous l'approfondir ? Dans la parole de Dieu, dans les sacrements. Donc, les petites fraternités locales, ce sont des serviteurs qui se retrouvent pour partager sur la miséricorde à partir d'une méditation mensuelle écrite à partir d'un verset de l'Évangile et puis d'extraits du petit journal pour approfondir et puis se laisser travailler le cœur. Et puis ensuite, se laisser travailler le cœur, pourquoi ? C'est pas simplement pour un bien-être personnel, mais évidemment pour le transmettre, pour essayer d'en vivre là où on est, pour le transmettre par des moyens, différents moyens d'évangélisation, comme les tableaux pèlerins. Les tableaux de pèlerins, ce sont des tableaux de Jésus miséricordieux qui font 80 cm de haut et qui tournent dans des foyers. Mais les foyers qui reçoivent le tableau, ce n'est pas simplement pour leur propre plaisir qu'ils reçoivent le tableau. Ils ont pour mission d'inviter des gens, comme dit notre pape, à la périphérie. C'est-à-dire des personnes qui ne vont pas à la messe dimanche, qui ne connaissent pas grand-chose de Jésus et qui peuvent être sensibles à une invitation d'un voisin, d'un ami, venir pour un temps fraternel et de prière devant ce tableau dans un salon, tout simplement. Et là, c'est inouï le nombre de grâces qu'on a pu en recevoir, de merveilles qui ont pu être confiées. Alors, on tire des images en milliers d'exemplaires. Chacun est invité à évangéliser avec cette image. On a aussi l'heure de la miséricorde dans les paroisses. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance de la prière à 15h. On a des serviteurs qui se sont sentis appelés à animer l'heure de la miséricorde dans leur paroisse, un jour par semaine. La plupart d'entre eux, c'est le vendredi. Le vendredi, donc à 15h, ils ont un carnet. Tout le monde, comme ça, utilise le même déroulé, quel que soit l'endroit où il se trouve. Et donc ça, c'est, je dirais, un service proposé à la paroisse pour tous ceux qui le souhaitent de venir méditer la passion et confier des intentions de prière. Tous s'investissent aussi pour préparer, aider le curé de leur paroisse à préparer la fête de la miséricorde. Voilà, on a donc des apostolats de prière, de compassion, comme j'ai parlé de la chaîne de prière pour les personnes en fin de vie. On a une chaîne de prière pour les membres du gouvernement et on en a une autre pour les prêtres. Voilà.
Voilà, et merci beaucoup Hélène Dumont d'être venue ce matin dans l'émission Vivante Église. Donc on va rappeler le site internet Serviteur de la Miséricorde tout accroché, c'est ça, avec un S à serviteur.org, serviteurdelamiséricorde.org et le titre de votre ouvrage, enfin l'un de vos ouvrages, La Miséricorde Divine, une grâce pour notre temps, paru aux éditions de l'Emmanuel. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.